Rosa Bonheur écrit à son frère Isidore, à la toute fin de sa vie, en 1899, « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau. » Partons à la découverte de l'œuvre de cette femme, dont la vie rime avec personnalité, émancipation, liberté, travail, indépendance, passion. Partons à la rencontre de son œuvre puissante qui nous invite à porter un autre regard sur la nature et plus particulièrement sur le monde animal. Marchons dans les pas de cette dessinatrice virtuose, de cette peintre qui connut de son vivant une gloire planétaire et qui, après avoir été invisibilisée par l'histoire de l'art, reçoit aujourd'hui l'honneur d'une magnifique rétrospective au musée d'Orsay. Partons déambuler dans le monde de Rosa Bonheur. Nous sommes sur le parvis du musée d'Orsay. Avant d'entrer, nous ne pouvons manquer trois œuvres animalières monumentales qui sont exposées sur de hauts piédestaux. Commandée à des sculpteurs contemporains de Rosa Bonheur pour l'exposition universelle de 1878, ces sculptures témoignent de l'intérêt de l'époque pour le monde animal. Un intérêt stimulé par l'émergence des parcs et jardins zoologiques qui rendent les animaux sauvages, exotiques, plus accessibles. Les artistes, peintres, sculpteurs, photographes, se plaisent à étudier ces modèles vivants, leur anatomie, leur façon d'être et de se mouvoir dans l'espace, leur caractère et parfois leur souffrance, comme c'est le cas ici avec l'éléphant pris au piège d'Emmanuel Frémiet. Nous sommes donc dans ce 19e siècle qui jette un nouveau regard sur l'animal. Entrons. Filons le long de l'allée centrale des sculptures, sous la grande verrière, pour atteindre l'entrée de l'exposition qui nous réunit aujourd'hui, l'exposition Rosa Bonheur. Cela fait un siècle que l'artiste n'a pas été exposé à Paris. Pour nous accueillir, sans doute pour nous surprendre aussi, une œuvre contemporaine, une œuvre de l'artiste Gloria Friedman, intitulée « Venue d'ailleurs », datant de 2022. Il s'agit d'une installation monumentale, là encore, de 4 mètres de long sur 4 mètres de large et 5 mètres de haut. Une installation qui met en scène un cerf, grandeur nature, échelle 1, et qui allie uniquement des matériaux naturels, terre, écorce, feuilles mortes, mousse. Dans le magnifique catalogue d'exposition, nous pouvons lire une lettre adressée de façon posthume par cette artiste, Gloria Friedman, à Rosa Bonheur. Une lettre dans laquelle elle affirme « Il y a deux perspectives. L'une est que je suis le centre du monde. Existe seulement ce que je vois. L'autre est de considérer que je suis un humain parmi d'autres espèces. Je vis dans un univers. » Plongeons justement dans l'univers de Rosa Bonheur. Plongeons dans le monde animal qu'elle se plaît à figurer dès le plus jeune âge et tout au long de sa vie. Un monde dans lequel elle entretient une proximité de tous les instants. Je vous laisse écouter ses propres mots pour vous en convaincre. J'avais pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales. Vous ne sauriez vous douter du plaisir que j'éprouvais à me sentir lécher la tête par quelque excellente vache que l'on était en train de traire. Mais revenons à notre déambulation. Après les œuvres monumentales que je viens d'évoquer, celle du Parvis, celle de Gloria Friedman, et avant d'en évoquer de nouvelles, cette fois de Rosa Bonheur, un mot sur le petit format, sur la délicate peinture à l'huile, sur l'œuvre de jeunesse intitulée de lapins qui nous accueille dans la première salle. C'est la première fois que Rosa Bonheur expose au salon. Nous sommes en 1841, elle a 18 ans. Cette œuvre n'a rien de mièvre, mais elle peut nous toucher par son réalisme, ses lumières, la qualité de sa réalisation. Cette huile sur toile de format modeste est là pour nous rappeler que Rosa Bonheur n'est pas seulement le peintre des vaches, comme certains se plaisent à la qualifier. Ce tableau nous invite à penser à la diversité qui est au cœur de la création de Rosa Bonheur. Ces lapins témoignent également de son apprentissage de la peinture avec son père. À 12 ans, elle dit « Ne pourrais-je pas me rendre célèbre en me bornant à peindre les animaux ?» Son père, finalement, la soutient dans ce choix stratégique, dirions-nous aujourd'hui, à tel point qu'il accepte de transformer l'atelier en ménagerie. Dès 1841, oiseaux, singes, écureuils, brebis, chèvres logent au sixième étage de la rue Rainfort, à Paris. Un lieu de pause est aménagé pour les animaux dans cet appartement qui sert d'atelier à Raymond Bonheur et à ses quatre enfants. Ta petite bique est bien fatigante avec ses bêlements et sans fort. L'écureuil s'est enfermé lui-même comme un ermite dans la tête de Diana, mais descend matin et soir pour mendier et jouer ses farces. Les serins chantent le Gloria tibi dominé et le pinson se raffermit sur ses jambes. Les rats sortent faire un trou ici ou là et les papillons, fixés par une épingle avec les autres insectes, n'ont pas bougé depuis leur martyr. C'est ainsi que Raymond Bonheur évoque ce qu'il qualifie de « tout le stock vivant de sa fille ». Toute sa vie, Rosa Bonheur s'entourera d'animaux allant du petit chien au lion en passant par les cerfs, les isards, les laits, les chevaux et bien d'autres encore. Rosa Bonheur peint donc à partir du vivant, sans sentimentalisme. Réalisme et expressivité sont clés dans son art. Enfin et surtout, cette œuvre intitulée « De lapin » atteste de l'admiration que Rosa Bonheur portait aux peintres animaliers, ceux du siècle d'or flamand comme Paulus Potter, mais aussi comme Boulle et Bernhards, qui ont œuvré au sein des grandes ménageries de l'Ancien Régime et que nous avions évoquées lors de notre visite sur les animaux du roi à Versailles. Elle voue également une grande admiration aux artistes comme Jean-Baptiste Oudry et Jean-Baptiste Huet, maître des écoles naturalistes françaises. Elle raconte son amour pour le Louvre. Les tableaux des vieux maîtres exerçaient sur moi une fascination toute spéciale. Combien d'heures j'ai passées dans ces salles sans fin, remplies de chefs-d'œuvre. Combien de toiles j'ai copiées. Je ne saurais assez répéter aux commençants qui veulent embrasser la difficile et pénible carrière d'artiste de faire ce que j'ai fait. De se meubler la tête d'études d'après les vieux maîtres. C'est la vraie grammaire de l'art, et le temps ainsi employé ne peut que profiter à l'avenir. Poursuivons notre déambulation. Nous entrons maintenant dans la salle consacrée au marché aux chevaux. Sur notre droite, une toile blanche immense, de 2,43 m de haut sur 4,53 m de long. Cette toile est couverte de traits de fusain pleins de fougue. Ils tracent une cavalcade. Très nombreux, les chevaux arrivent à pleine allure sur notre gauche, ils sont de profil, et devant nous, juste avant d'atteindre l'extrémité droite de la toile, ils tournent et s'éloignent, nous laissant voir leurs croupes musclées et puissantes. En y regardant bien, on discerne quelques silhouettes humaines, certaines à pied, d'autres à cheval. Elles aussi sont en plein mouvement. Cette ébauche à la craie, au fusain et à la pierre noire sur toile préparée, a été découverte très récemment en 2020 au château de Bitomery. Les techniques utilisées sur cette toile de bonne qualité sont la craie, le fusain et la pierre noire. Ici, ces techniques volatiles ne sont pas fixées. Il pourrait donc s'agir d'un tracé sous-jacent pour un tableau définitif qui n'aurait pas satisfait l'artiste. Il pourrait s'agir d'une ébauche très dynamique, vouée à disparaître sous la peinture. Le geste est ample, il pose le schéma structural, l'artiste se concentre sur le mouvement, les groupes, leurs imbrications. Face à nous, une autre œuvre, une peinture à l'huile, cette fois parfaitement achevée, figurant une scène proche. Cette toile est habituellement conservée à la National Gallery de Londres. Son format est monumental également, c'est celui d'une peinture d'histoire. Pourtant, il reste très modeste par rapport à l'original conservé au Metropolitan Museum of Art à New York et qui n'a pu être déplacé en raison de sa fragilité. En fait, la toile que nous avons devant nous est une réduction de 1,20 m de haut sur 2,54 m. Une réduction réalisée par Nathalie Mikas et achevée par Rosa Bonheur. Pour rejoindre l'atelier du graveur Thomas Landseer, nous y reviendrons. C'est une réduction de l'imposante œuvre initiale qui, elle, mesure 2,44 m de haut sur 5,06 m de long. Le double du pâturage nivernais. Une cinquantaine de centimètres de plus que la toile esquissée sur notre droite. Plongeons dans l'œuvre qui nous est donnée à voir. Nous sommes boulevard de l'Hôpital à Paris, dans le 13e arrondissement, tout près de l'asile pour femmes de la Pitié-Salpêtrière, comme en atteste la coupole qui se dessine au loin et qui s'élève en haut à gauche du tableau, dans le flou, comme dans un nuage de poussière. Nous sommes debout sur une route en terre et nous voyons déferler sur nous une foule de chevaux puissants qui arrivent sur notre gauche, tournent devant nous, nous présentent leur flanc droit pour s'éloigner ensuite et repartir vers leur point de départ, dessinant une boucle, un cercle. Un des critiques présents au salon de 1853 où l'œuvre est exposée dit avoir dû faire un saut en arrière, loin des chevaux, tellement l'œuvre est réaliste. Une foule de chevaux donc avance vers nous à vive allure. Au fond, à gauche, deux hommes, debout, encadrent un cheval blanc pour, semble-t-il, réajuster son licol. Le cheval est en mouvement, il lève sa jambe antérieure gauche, dans un geste de résistance à la pression que lui font subir les deux maquignons. Il semble que l'un des hommes soit sur le point de se faire briser le pied par ce percheron agité. Devant ce groupe, un cheval rouant à la crinière fournie, aux fanons abondants, marche au pas. Un homme à sa gauche le tient par le licol. L'homme marche, la cravache basse, à la même cadence que le cheval. Il porte une chemise blanche ouverte qui laisse apparaître sa pilosité. Le couple semble en harmonie. C'est le seul élément calme du tableau. Si l'homme et le cheval poursuivaient leur route tout droit, ils pourraient peut-être sortir de cette ronde infernale. Car tout près, légèrement plus à droite sur la toile, un autre cheval semble lui presque en déséquilibre, l'encolure baissée, la tête inclinée, comme cherchant à s'écarter, à se protéger ou à éviter un coup. Un coup que pourrait lui asséner le cheval noir monumental qui se cabre à sa gauche, en plein centre du tableau. Ce cheval noir s'élève au-dessus de tout le groupe. Il domine. Nous le voyons de profil. Sa robe est luisante. Il regarde face à lui, vers notre droite. Sa bouche semble se tordre d'effroi ou de douleur. Sa crinière est agitée. Il s'agit d'un étalon vigoureux, monté par un maquignon vêtu de bleu. L'homme semble déséquilibré. Il lève le coude droit vers le ciel, il brandit un bâton. Toute cette scène pourrait elle-même résulter de la violence d'un autre homme, qui lui est au sol, auprès d'un cheval blanc, également en train de se cabrer. Le cheval blanc est légèrement en contrebas de la monture noire que nous venons d'évoquer. Il a les naseaux largement ouverts. Ils sont figurés dans des tons de rose, tout comme la bouche. Il tourne sa tête vers nous. Son œil droit nous fixe, nous prend à témoin. Le maquignon, debout à ses pieds, à sa gauche, tente de le retenir, avec une longe extrêmement courte. Le poing de l'homme est à quelques centimètres de la bouche du cheval. Lui aurait-il asséné un coup qui pourrait être à l'origine de l'œil fiévreux, rouge, comme exorbité de l'animal? Ce regard serait-il l'expression de sa douleur? Nous pouvons imaginer le fracas de cette scène qui mêle le bruit des sabots des chevaux lancés à vive allure, les hennissements, les cris des hommes, la poussière qui s'élève. Nous sommes au cœur du tumulte de cette œuvre, nous regardons impuissants cet acte de violence, tout comme les rares cavaliers sur les montures encadrant ce groupe. Poursuivons. Devant ces trois chevaux que nous venons d'évoquer, le bai en pleine course, le noir et le blanc cabré, toujours plus à droite de la toile, deux percherons gris pommelés, non scellés, avancent à vive allure. Ils ont déjà tourné. Nous les observons de trois quarts arrière. Ils sont guidés par un seul et même homme qui monte accru le cheval le plus éloigné de nous. L'homme tourne la tête vers l'homme au point tendu. Il porte une chemise blanche. Il est vêtu dans des teintes qui se fondent avec ce couple de percherons. Le maquignon a le dos incliné vers l'arrière, comme s'il souhaitait les ralentir, comme s'il avait du mal à les retenir. Il tente de guider de son bras droit et puissant, avec poigne et fermeté, le couple de chevaux. Mais l'enraînement de corde est d'une finesse extrême, il semble dérisoire. La corde est même sectionnée et réparée, comme en atteste le petit nœud sur l'encolure du percheron près de nous. Ce couple de chevaux occupe un quart du tableau. Ils constituent véritablement une paire et nous pouvons les observer à loisir. Attardons-nous sur leur morphologie, que Rosa Bonheur restitue ici dans les moindres détails. Leur taille est imposante. Ce sont des chevaux lourds, aux pieds larges. Leurs muscles robustes font saillie sous la peau. L'œil droit est visible et expressif. Leurs oreilles, fines et grandes. Leur encolure, forte. Leur poitrail, puissant. Leur dos est droit. Leurs reins courts et larges. Leurs croupes et leurs épaules, amples et vigoureuses. La tache de leur queue, tressée pour l'attelage, est haute. Leur allure est élégante. Reprenons un peu de recul. Nous ne sommes pas les seuls spectateurs de cette scène, puisqu'à l'extrême droite de la toile, nous devinons des hommes, certains debout, les bras croisés, le long de la route où se déroule cette cavalcade. D'autres sont assis dans l'herbe, au-delà de la rangée d'arbres qui borde cette même route. Ce sont des clients potentiels. Nous sommes au XIXe siècle, dans une partie de Paris encore très peu urbanisée. Notons que cette rangée d'arbres, qui part de la coupole de la Salpêtrière, évoquée au fond à gauche du tableau, se déploie dans une grande diagonale et constitue comme un fond pour cette scène agitée et tumultueuse. Dans cette toile, Rosa Bonheur rend hommage à la race du perche, superbe par la hauteur de son encolure et la tache de son garrot, comme elle le dit elle-même. Une race très ancienne, une race aujourd'hui menacée d'extinction. Elle rend honneur à ces animaux pleins de vie et de puissance, surnommés alors les diligenciers. Ces chevaux connus pour leur courage exemplaire, capables de tracter des charges lourdes tout en soutenant un trot régulier, utilisés pour la poste, pour la compagnie générale des omnibus ou encore comme animal de trait. Valérie Bienvenu, doctorante à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, écrit sur cette œuvre. Le marché aux chevaux, l'œuvre la plus célébrée de Rosa Bonheur, est peinte à l'échelle d'un tableau d'histoire. Devant sa taille monumentale, il n'est pas étonnant que le spectateur néglige certains détails importants. Or, c'est en regardant le marché aux chevaux de près qu'il se révèle le mieux. Par exemple, au centre de la scène, dans l'orbite d'un percheron blanc, l'artiste a logé un regard impétueux. Ce regard nous est directement adressé. Au musée, il faut le localiser dans l'œuvre, s'arrêter devant lui, l'observer, le scruter pour entamer un dialogue interne, muet, instauré par l'autre et qui se rapporte à moi. Voir ce regard comme un acte responsable. Il convient d'y voir le dévouement ultra-sensible de l'artiste à la réalité émotionnelle de l'autre. Dans cette composition vertigineuse par son mouvement, Rosa Bonheur ne figure pas seulement la beauté, la force, la vigueur de la race percheronne. Elle sait isoler l'individu de l'espèce, pour reprendre une expression de Laurence de Villiers. L'animal ici n'est pas impersonnel. Rosa Bonheur individualise chacun d'entre eux. Rosa Bonheur dresse le portrait de chaque cheval. Ici, l'artiste a su également exprimer l'interconnectivité des êtres, l'effet des actions de l'homme sur l'animal. Les sorts des percherons et des maquignons sont enlacés. Rosa Bonheur dénonce ce rapport de domination, de violence, de certains de ses hommes à l'égard de ses animaux, qu'il considère comme des outils de travail et qu'il traite sans égard. Chaque touche, chaque poil, chaque regard est l'expression de la profonde affection de Rosa Bonheur pour ses chevaux. Si l'on évoquait l'élaboration, le making-of de cette toile. Cette œuvre, ce morceau de bravoure de la peinture, est le fruit d'un travail au long cours. Rosa Bonheur raconte « Après la mort de mon père, je n'eus plus d'autre maître que ceux dont l'œuvre est au Louvre. Sans compter la bonne nature, dont le livre magnifique reste toujours ouvert devant nos yeux. Les enseignements de celle-ci se mêlaient aux souvenirs de cela. Ainsi, m'arrivait-il au milieu des maquignons éprouvant leurs chevaux, de songer aux frises du Parthénon. Et pourquoi ne ferais-je pas quelque chose de ce genre, pensais-je? Mon idée n'était pas d'imiter, vous vous en doutez bien, mais d'interpréter. Dans cet esprit, j'ai fait des compositions et des études innombrables. » Rosa Bonheur évoque ici les frises des Panathénées, sculptées dans le marbre pentélique, dont elle a vu des fragments au Louvre. Ces frises, sculptées sur 160 mètres de long, figurent une procession de 278 figures humaines, mais aussi 245 animaux, parmi lesquels 227 chevaux. Rosa Bonheur raconte également que pendant un an et demi, elle se rend deux fois par semaine sur ce marché aux chevaux, vêtue d'un costume d'homme. Grâce à sa permission de travestissement obtenue auprès de la préfecture, en blouse bleue donc, pantalon de velours et chapeau mou. Là, elle cherche à se faire oublier. Elle multiplie les études préliminaires. 18 mois de travail acharné. Le marché aux chevaux semble avoir été un cas extrême. Dessins, croquis sur le vif, études de détails sur les parties corporelles des chevaux, figures isolées, groupes de figures, études de composition. Certains de ces travaux sont ici exposés sur le mur de gauche de la salle. Ils sont pleins de réalisme, de force, de mouvement, de puissance. Ils sont pleins de vie. Comment ce tableau fut-il reçu par le public? En 1853, il est présenté au salon. Il connaît un succès considérable immédiat. Le jury déclara à l'unanimité que désormais mes envois seraient admis de droit, nous dit Rosa Bonheur. C'est exceptionnel. L'œuvre est incontournable parmi les 1768 exposés. Rosa Bonheur traite ici un sujet jusqu'alors réservé aux hommes, les chevaux. Dans un format jusqu'alors réservé aux hommes, celui de la peinture d'histoire. Elle ne cache pas sa volonté de rivaliser avec des peintres comme Delacroix, Georges Stubbs ou encore Théodore Géricault. elle va au-delà des contraintes et des attendus du genre animalier. Elle le fait avec éclat. Le caricaturiste Bertal parle de cette peinture comme d'une grande machine, une machine de la force de 42 chevaux. Seul Théophile Gautier juge cette peinture sans virilité. Rosa Bonheur souhaite vendre sa toile à l'État, mais il tergiverse. Elle la propose pour 12 000 francs or à la ville de Bordeaux, qui refuse de l'acheter. Le marchand, éditeur et collectionneur d'art Ernest Gambard, se porte alors acquéreur. La compagne de Rosa Bonheur, Nathalie Micas, défend les intérêts de l'artiste. Voici ses mots. Si le tableau doit quitter la France, il ne partira pas à moins de 40 000 francs. 40 000 francs, une somme considérable qui permettra à Rosa Bonheur d'acheter le château de Bitemerie. Mais revenons à Ernest Gambard, ce marchand d'art d'origine belge établi en Grande-Bretagne, car il joue un rôle capital dans la vie de Rosa Bonheur. Avec cet achat, il devient détenteur des droits de reproduction, d'exposition et de promotion de l'œuvre. Il devient aussi l'agent de Rosa Bonheur à l'étranger. Ernest Gambard va en fait inaugurer le système de représentation de l'artiste par une galerie, un système devenu aujourd'hui la norme. Il organise une tournée de l'œuvre. En 1854, l'œuvre est vue à Gand, puis à Londres, où il loue une galerie au 121 Pall Mall Street, qu'il nomme The French Gallery. Cette galerie va devenir une institution. Bals, dîners mondains y sont organisés. Artistes, critiques d'art, acheteurs s'y rencontrent. Et justement, en 1855, Gambard organise la rencontre du peintre animalier le plus célèbre d'Angleterre, Sir Edwin Landseer, avec son homologue d'outre-Manche, Rosa Bonheur. Deux stars de la peinture animalière sont réunies. La toile ne s'arrête pas à Londres. Elle fait le tour de la Grande-Bretagne. Manchester, Liverpool, Glasgow, Édimbourg. Les expositions sont payantes. Les visiteurs peuvent participer à une souscription pour acquérir une version gravée. Une version gravée par Thomas Landseer, frère de Sir Edwin Landseer. Cette gravure qui a été réalisée à partir de la réduction que nous avons devant nous aujourd'hui. Cette gravure participe bien sûr à la diffusion de l'œuvre et à son succès. Gambard réussit à convaincre Rosa Bonheur de faire la tournée avec son chef-d'œuvre. Elle reçoit donc en personne les compliments de la reine Victoria. En 1856, Rosa Bonheur a 34 ans. Des biographies viennent construire le mythe autour de sa personnalité, celle de Frédéric Lepel de Boisgalais et celle d'Eugène de Mirecourt, très romancée. En 1857, le tableau part aux États-Unis. Rosa Bonheur, cette fois, n'est pas du voyage. Mais Gambard commande un portrait de Rosa Bonheur à Édouard Dubuff. Il s'agit du portrait du peintre Rosa Bonheur aux côtés d'un Bovidé. Tel est son titre. C'est un portrait à deux mains puisqu'elle réalise elle-même le Bovidé en question. Ce portrait est lui aussi gravé et diffusé. En 1862, Rosa Bonheur est élue membre de l'Académie des Beaux-Arts de Milan, membre de l'Académie de Pennsylvanie et de la Société des artistes belges. Rosa Bonheur est mondialement célèbre. Rosa Bonheur intrigue. Rosa Bonheur connaît une gloire publique phénoménale et Gambard orchestre la célébrité de sa protégée. Mais Rosa Bonheur se lasse vite de ses honneurs et cherche à se rapprocher de la nature. C'est pourquoi, dès 1859, elle achète le château de Bitemerie en Seine-et-Marne. Il faut mesurer le caractère exceptionnel de cet acte. À l'époque, pour une femme, acheter un tel bien grâce aux fruits de son travail, c'est quasiment impossible. Rosa Bonheur concrétise ici une promesse posthume faite à sa mère. Décédée d'épuisement, dans le dénuement le plus complet, et enterrée dans une fosse commune, alors que l'artiste était âgé de seulement 11 ans. Le 12 juin 1860, Rosa Bonheur emménage donc au château de Bi avec Nathalie Micas, sa sœur d'adoption et sa compagne, et la mère de celle-ci, qui s'occupe toutes deux des questions matérielles. Rosa Bonheur peut donc se consacrer à son art dans son grand atelier, qu'elle a fait ériger par Jules Saulnier, près du bâtiment principal. Ce château de Bie, cette arche de Noé où elle logera jusqu'à 200 animaux simultanément, ses pensionnaires, comme elle les surnommait, ce domaine de la parfaite amitié connaîtra 50 ans de production artistique. L'atelier est resté intact. Récemment racheté par Catherine Brault, il se visite et nous invite à plonger 200 ans en arrière, dans l'intimité du geste de création de Rosa Bonheur. C'est aussi dans ce château de Bie que, le 8 juin 1865, l'impératrice Eugénie remet la Légion d'honneur à Rosa Bonheur. Elle est alors âgée de 43 ans. Le génie n'a pas de sexe, dit l'impératrice. Avant de poursuivre notre déambulation, je voudrais évoquer un autre fait notoire en lien avec le marché aux chevaux. Ça se passe en 1887 aux États-Unis. Rosa Bonheur est alors âgée de 65 ans. Le collectionneur Cornelius Vanderbilt II achète la toile monumentale pour un montant de 268 000 francs or, somme jusqu'alors réservée aux maîtres anciens. Il l'achète pour en faire don au Metropolitan Museum of Art, où il est toujours conservé aujourd'hui. Je me suis un peu attardée sur la réception de cette œuvre qui illustre l'évolution du marché de l'art dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui montre aussi à quel point Rosa Bonheur a su affirmer ses choix picturaux et a su exister en tant qu'artiste de renom. Comme nous l'avons évoqué, ce tableau a également été l'occasion pour Rosa Bonheur de voyager. Il l'a conduit jusqu'en Écosse, pays qu'elle affectionne tout particulièrement car les écrits de Walter Scott et d'Ossian ont bercé toute son enfance. En parlant d'Ernest Gambart, elle dit « Il connaissait ma passion pour la grande nature et mon faible pour Walter Scott. Il a donc eu aucun mal à la convaincre de se rendre en Écosse lors de leur tournée en 1856. » Une salle est consacrée aux œuvres réalisées en lien avec les différents voyages de Rosa Bonheur. Je vous propose de nous y attarder un instant pour admirer le dessin intitulé « Vaches et bœufs traversant un lac à Balachouliche ». Lieu que Rosa Bonheur et Nathalie Mikas ont atteint en bateau à vapeur après un long périple. Lieu où elles séjournèrent 2 semaines dans un hôtel faisant face à la mer, adossé à la montagne. Nous sommes encore une fois devant une œuvre de belle taille puisqu'elle mesure 1,24 m de haut sur 2,23 m de long. Cette fois, il ne s'agit pas de peinture à l'huile, mais d'un dessin réalisé au fusain, pastel, encre et craie sur papier velin coloré. Enfant, Rosa Bonheur dessine avec une immense précision sur le sable, sur la poussière des routes, avec une branche d'arbre, tout ce qui frappait ses yeux. Adulte, le fusain, cette baguette de bois carbonisé, reste un de ses matériaux graphiques de prédilection pour ses esquisses, ses travaux préparatoires, mais aussi pour quelques œuvres abouties, comme ce dessin monté sur châssis. Nous sommes à Balachouliche, dans les Highlands en Écosse. Un ciel nuageux, mais rendu lumineux par des rehauts de craie blanche, occupe tout le tiers supérieur du dessin. Une chaîne de montagnes, au relief dessiné de façon estompée, vient fermer l'horizon. Au premier plan, une étendue d'eau occupe presque toute la moitié inférieure du dessin. Le mouvement de l'onde est figuré avec réalisme. Les traits de fusain, tantôt estompés, tantôt laissés bruts, viennent marquer l'ombre des creux des vaguelettes, tandis que des rehauts de blanc viennent en souligner les crêtes. À gauche de la représentation, le Loch Leven vient se heurter à la berge, constituée de rochers bruts et massifs. Rosa Bonheur dessine, à l'aide de touches de craie blanche, les éclaboussures au point de contact entre l'eau et la berge. Les rochers sont figurés avec plus de précision que les montagnes à l'horizon et s'élèvent plus l'on s'éloigne. Ils constituent comme un promontoire. À certains endroits, l'artiste n'hésite pas à noter d'un pastel vert lumineux la mousse qui anime une partie de la surface de ces pierres. C'est la seule note de couleur du dessin, qui dans l'ensemble est dans un dégradé de ton ocre sur lequel Rosa Bonheur vient poser le noir de l'encre et du fusain. Ce paysage est animé d'une migration de bétail. Des bœufs et des vaches, aux longues cornes et aux longs poils, caractéristiques de ces contrées septentrionales, se déplace. Il traverse le Loch Leven de la droite vers la gauche. Tout à droite du dessin, justement, il nage. Leur tête semble émerger difficilement des eaux du lac. L'un d'entre eux a l'œil grand ouvert, il semble nous lancer un regard inquiet. Un autre se différencie du groupe. Il ne nage pas en direction de la berge, mais s'approche de la longue barque à l'arrière-plan. Il regarde les quatre bouviers qui sont là, les quatre bouviers qui rament et guident les bêtes dans cette traversée. Au centre du dessin, le lac est moins profond. Les animaux reprennent pied, leurs cornes brillent, luisent. L'eau goutte le long de leur bouche et de leur encolure. Elle aussi est figurée par des rehauts de craie blanche, d'un réalisme à couper le souffle. Les bêtes se dirigent paisiblement vers les rochers de la berge que nous avons évoqués. L'une d'entre elles a la bouche ouverte, sans doute meugle-t-elle. Leur représentation est le fruit d'une observation aiguë. Une impression de puissance et une certaine sérénité se dégagent. Complètement à gauche de l'œuvre, les bœufs escaladent les rochers. L'un, à la musculature puissante, semble avoir glissé. On le voit de trois quarts arrière. Il est agenouillé sur ses pattes avant. Un autre, plus jeune, tourne sa tête vers nous. Il nous regarde. D'autres encore poursuivent leur ascension. Au sommet, l'un d'entre eux contemple le paysage. Les vaches et bœufs sont au nombre de 29, d'âges différents. Chacun dans des positions distinctes, chacun avec une attitude particulière, tous figurés avec une attention dédiée. Le critique d'art Roger Millès dit de Rosa Bonheur : elle avait l'intelligence des races et des types que son pinceau représentait avec un tact d'une extraordinaire précision. Son rapport à l'animal est unique. Elle se voit investie d'un destin, faire parler les bêtes muettes et la nature. Et d'ailleurs, en évoquant Walter Scott, qu'elle admire pour son œuvre, qui est à la croisée de l'Écosse, de l'esprit chevaleresque et des animaux, elle dit « L'amour ardent de Sir Walter pour les animaux m'a rapproché de lui, et a même accru, si tant est que cela fût possible, mon penchant pour le monde muet. » Rosa Bonheur fait parler ce monde du silence, et elle le fait notamment par l'attention qu'elle porte sur leur regard. Une chose que j'observais avec un intérêt spécial, c'était l'expression de leur regard. L'œil n'est-il pas le miroir de l'âme pour toutes les créatures vivantes? N'est-ce pas là ce que peignent les volontés, les sensations, des êtres auxquels la nature n'a donné d'autre moyen d'exprimer leurs pensées? C'est dans ce regard que s'exprime leur essence, leur présence d'être, leur mystère. Sur le rocher, tout en bas à gauche du dessin, au premier plan, Rosa Bonheur inscrit deux dates, 1867-1873, ainsi que sa signature. Cela nous donne une indication sur sa façon de travailler. Nous sommes dans le temps long. Rosa Bonheur était dans cette région reculée de l'Écosse, à Ballachulish, en 1856. Or, elle commence ce dessin en 1867, plus de 10 ans après, dans son atelier de bitomerie. En 1856, Rosa Bonheur observe dans le détail la traversée à la nage du Loch Leven par ses bœufs destinés à la foire aux bestiaux. Elle est alors totalement séduite par leur beauté. Elle souhaite d'ailleurs en rapporter en France. Mais l'administration et les réglementations douanières, en lien avec les épizooties notamment, l'en empêchent. Heureusement, ses nombreux croquis faits sur place lui permettent de réaliser ce chef-d'œuvre plus de 10 ans plus tard. Une citation de Rosa Bonheur vient d'ailleurs éclairer l'importance capitale qu'elle accorde à ce travail réalisé sur le vif. Des études, j'en ai fait de toutes les espèces, et plutôt que de m'en séparer, j'aimerais mieux me contenter pour chaque jour de mon existence d'un morceau de pain sec. Ce sont de vrais instruments de travail. Si je les avais lâchés pour quelques pièces d'or, je me serais condamnée à croupir dans l'oisiveté lorsque l'hiver de ma vie eut commencé. Ses esquisses, ses études constituent le répertoire formel qui anime son œuvre tout au long de sa carrière. Elle ajoute : Dans une œuvre où l'on a le désir de représenter fidèlement la nature, les moindres détails doivent être vrais. Leïla Jarboué, la commissaire d'exposition, confirme que ces études sont garantes de la vérité de l'œuvre de Rosa Bonheur, même pour les réalisations effectuées très a posteriori comme celle-ci. Elles sont pleines de réalisme, mais surtout, elles sont la trace de l'impression, de la sensation de l'artiste devant le réel. Elles apportent la vie dans le dessin, la vie de l'animal, mais aussi celle de l'artiste au moment où elle l'observe. Cette œuvre est considérée comme l'un des plus grands morceaux de fougue de l'artiste avec le marché aux chevaux. Elle devait devenir une grande toile, mais en 1873, Rosa Bonheur inscrit la date sur le rocher et l'envoie à son marchand, Ernest Gambard, en précisant qu'elle y avait mis tout ce qui lui était possible de faire. Ici, l'adéquation entre le sujet et la technique est évidente. Rosa Bonheur joue avec l'estompe, la réserve du papier. La technique participe à la grandeur de l'œuvre. Rosa Bonheur va à l'essentiel. En quelques mots, dans Beaux-Arts Magazine, Armelle Femla nous livre cette synthèse. Longue composition, parcourue d'un souffle épique. Cette scène ne figure pourtant rien moins qu'un épisode banal de la vie rurale. Rosa Bonheur nous livre ici le sublime et la beauté grandiose de ces espaces immenses. La taille, la force de ces animaux puissants, robustes, de ces taureaux à longues cornes et à poils longs, de ces races propres à ces contrées septentrionales. Elle nous montre également le rapport entre l'homme et ce groupe de bovidés, dont le destin est finalement de traverser ce loch, geste qui semble quelque peu antinaturel, à observer le regard de certains et la nécessaire intervention des bouviers sur leur barque. Les deux œuvres que je vous ai présentées, Le marché aux chevaux et Vaches et bœufs traversant un lac à Balachouliche, présentent ces grands animaux avec une certaine dimension héroïque, épique. Ce n'est pas toujours le cas dans l'œuvre de Rosa Bonheur, qui est très diverse, puisqu'elle va du portrait du renard, seul dans une clairière, à celle d'une famille de lions. Une œuvre diverse également dans ses techniques, puisque Rosa Bonheur a pratiqué la sculpture, le dessin, l'aquarelle, la peinture, la photographie. Son œuvre témoigne de sa curiosité insatiable, qu'elle a su exprimer grâce à sa maîtrise technique, aussi bien dans des compositions spectaculaires que dans des portraits. Le lien, le fil conducteur de sa production, l'expressivité animale. Son vétérinaire, Anatole Rousseau, témoigne. Elle les aimait et cherchait à gagner leur affection. Aussi en étudiait-elle les mœurs, les manies, les pensées même. Pour les figurer, elle se faisait apprivoiser par les animaux. Ses muses, ses modèles avec qui elle savait instaurer un rapport de réciprocité. Ses muses qu'elle a su respecter dans leur altérité, leur singularité, sans jamais chercher à les humaniser. Je conclurai sur le propos de la docteure en histoire de l'art Estelle Zong-Mingal. Il concerne l'éthique des écrivaines naturalistes anglaises et américaines. Il peut s'appliquer à Rosa Bonheur. Il constitue une invitation à la réflexion. Connaître le vivant est ainsi profondément relationnel. Connaître, c'est faire connaissance. Faire connaissance, c'est se relier. Se relier, c'est devenir quelqu'un, un autre soi-même, fait de relations tissées. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de décembre 2022 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour accompagner notre visite, j'ai choisi un extrait de la sonate numéro 11 en La majeur de Mozart. En souvenir de ces instants où sa mère, Sophie, se mettait au clavecin pour jouer et chanter. Rosa Bonheur aimait tant ces instants. La musique a accompagné toute sa vie. Mozart, Schumann, Beethoven, mais aussi les compositeurs de son temps comme Gounod, Berlioz. Il n'était pas rare que son atelier au château de Bie, son sanctuaire comme elle l'appelait, se transforma en salle de concert.